doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est le but.
Cette fin de semaine, vos remparts sont dans les Maritimes. Pour débuter ce voyage, les Diables Rouges affrontent le Wildcats de Moncton ce jeudi 18h, heure de l'Est. Ne manquez pas l'avant-match dès 17h45. Remparts contre Wildcats ce jeudi 18h, seulement sur les ondes de Cheese 94.3.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle émission de 3100 secondes d'histoire, votre rendez-vous historique hebdomadaire sur les ondes de Cheese 94.3. Vous êtes en compagnie de Thomas Nadeau-Mercier au micro ce soir et je vous ai préparé une autre émission des plus intéressantes. Alors ce soir, là, on se plonge dans un pan de notre histoire là, longtemps négligé, également au sein des disciplines historiques, celle de la contraception, de la fertilité et de la sexualité. Plus précisément, là, on va discuter au cours de la prochaine heure là, de l'organisme communautaire Serena, fondé en 1955, qui enseignait et qui enseigne toujours, là, d'ailleurs, la méthode symptothermique, une méthode de gestion de la fertilité. Donc là, vous vous dites peut-être chez vous que c'est ça, une méthode, la méthode symptothermique. La méthode symptothermique, là, c'est une méthode naturelle de contraception, mais également une manière de favoriser la conception d'un enfant en déterminant d'une manière assez fiable le moment de l'ovulation. Essentiellement, là, c'est une méthode qui repose sur la mesure de la température basale du corps qui est combinée à l'observation de la glaire cervicale tout au long là, du cycle ovulatoire. Donc, non seulement Serena, c'est un organisme pionnier dans le développement scientifique et dans l'enseignement de cette méthode, mais il faut le spécifier. Et c'est là tout l'intérêt d'en discuter ce soir. C'est la première organisation là, à offrir des services aux femmes et aux couples en matière de contrôle des naissances au Québec à partir, comme je disais plus tôt, du milieu des années 50. Donc, il faut préciser là, qu'à l'époque, il n'y a littéralement aucun service qui est disponible sur le territoire québécois là, en matière de contrôle des naissances ou plus largement de sexualité et de fertilité. Donc, pour ce faire, pour discuter de tout ça, ben, on a le très grand plaisir de recevoir Mme Marie-Paul Dun, qui fut non seulement témoin, mais surtout ben, partie prenante de l'histoire de Serena pratiquement depuis ses débuts. Donc, elle s'est jointe à l'équipe de Serena dans les années 60, d'abord avec son conjoint à titre de couple moniteur, puis en occupant les fonctions là, très importantes de directrice de Serena Québec, puis directrice de Serena Canada. Alors, bonsoir, Madame Dunn, bienvenue à l'émission.
Bonsoir, monsieur. Je suis très, très contente d'être à votre émission.
Ben oui, moi aussi, je suis extrêmement content de pouvoir m'entretenir avec vous. Je ne pense pas qu'on aurait pu trouver une meilleure personne pour traiter l'histoire de Serena là, ce soir. Donc, pour débuter l'émission, là, Madame Dunn, pouvez-vous peut-être nous raconter brièvement les débuts de votre application là, auprès de Serena?
Le début, c'est en 1962, tout de suite après mon mariage, que j'ai trouvé l'article dans la revue populaire. Et puis que j'ai dit à mon mari, on se faisait 2 mois qu'on était mariés, alors je lui ai dit, tiens, ça c'est des gens que je vais retrouver. Et puis j'ai mis la revue populaire en dessous de notre table de téléphone. Et puis je me suis dit, ça va faire surface. Parce qu'à ce moment-là, dans l'article, il nous disait qu'il ne fournissait pas les noms. Du couple fondateur parce qu'il y avait eu beaucoup trop de lettres, environ 2000 qui avaient suivi une émission de télévision et puis quelques articles dans les journaux. Et puis pour une table de cuisine, recevoir 2000 lettres dans une brève période de temps et se donner comme mission de répondre à tout le monde, c'est assez impressionnant.
Ça commence à faire pas mal de travail quand même. Puis ça montre aussi tout, comme je disais en introduction, toute l'étendue des besoins à l'époque en termes d'informations sur le plan.
Oui, oui, ça a été extrêmement rapide. Mais moi, personnellement, j'ai entendu parler de la méthode des températures avant mon mariage. À un moment donné, j'ai trouvé une petite plaquette de 32 pages par Van der Stappen, qui est un médecin français. Et c'était dans un bac là, de livres à acheter à rabais. Et puis là, je l'ai acheté parce que j'étais travailleuse sociale à ce moment-là et je m'occupais d'enfants qui devaient être placés en foyer nourricier. Alors, à chaque fois qu'arrivait un nouveau bébé, nos jeunes perdaient la chambre qui était la leur, parce que la famille avait quand même pas tant d'espace que ça. Alors, je me suis dit, tiens, si j'aide les femmes à avoir la fécondité qu'elles désirent à ce moment-là, ça sera préférable.
Mm-hmm. Et là, vous parliez de la méthode du thermomètre. Là, on ne parlait pas spécifiquement de la méthode Ogino, qui était assez connue au Québec, je pense, avant.
Oui, la méthode était connue, même très mal connue. Oui. Non, je ne parle pas de la méthode Ogino, c'est sûr. Mais en France, il n'y avait pas d'organisation. Alors, la méthode des températures, c'est tout simplement un livre qu'un médecin a décidé d'écrire. Mais c'est que ça condensait l'information qu'on avait à ce moment-là. Alors, vraiment, méthode symptothermique, ça, c'est une invention québécoise. C'est le nom que les Brault, le couple fondateur, a donné à la méthode à la suggestion du père de Lestapy, qui est un démographe des années 60, et qui, de passage au Québec, avec les Brault en discutant, a dit, ben, c'est évident, c'est la méthode symptothermique. Et à ce moment-là, parce que nous, on n'utilisait pas seulement la température, mais on regardait aussi les autres signes d'ovulation. Oui. Alors, ça enrichissait les choses. Alors, vraiment, la méthode symptothermique, c'est un produit québécois.
C'est extrêmement intéressant, Mme Dunn. On s'entend très bien l'émission. On va s'arrêter un bref instant là, pour une première pièce musicale. On va l'écouter Faire des enfants. C'est bien à propos de Jean Leloup. Et on se retrouve après cet intermède. Bonne écoute.
Ce jour-là, il me tenait, il me lâchait pas. Quand à minuit, oui, j'aperçois une limousine nec plus ultra.
Alors, rebonsoir, vous êtes de retour à 3100 secondes d'histoire aux ondes de Chiz 94.3. On s'entretient ce soir avec Marie-Paul Doyle sur l'histoire de l'organisme Serena. Donc, revenons, là, Madame Doyle, au début de Serena, là où. Au moment de la fondation de l'organisme, comme je disais plus tôt, là, au milieu des années 50. Donc, à un moment, vous le disiez aussi là, plus tôt, là, où la méthode symptothermique là, est encore inconnue, ou très, très largement le méconnue au Québec. Donc, c'est vraiment en 1955 que le couple de Rita et Gilles Brault là, commence à l'enseigner. Pouvez-vous nous parler un petit peu du contexte dans lequel les Brault découvrent cette méthode et en viennent à l'enseigner au Québec?
Oui, Gilles et Rita Brault sont des gens de la Chine, près de Montréal. Alors, ils se sont mariés, disons, Rita n'avait que 20 ans lorsqu'elle s'est mariée. Alors, évidemment, elle a bâti sa famille assez rapidement. Quatre enfants, ils se sont impliqués dans les services d'orientation des foyers.
Oui.
Et ils sont devenus facilement les leaders de ce groupe-là. Et ils ont constaté que le problème principal des couples était justement les naissances rapides et nombreuses, et que ça ne répondait pas nécessairement à la volonté des couples à ce moment-là. Et pour eux-mêmes, d'ailleurs, la santé étant fragile, ils ont commencé à lire principalement, je dirais, Rita, parce qu'elle était une avide lectrice, et elle a obtenu les informations concernant l'influence de la température sur le cycle. Non, l'influence du cycle sur la température plutôt. Ouais. Et à ce moment-là, elle a commencé à en faire l'expérimentation elle-même. Et Gilles, c'est un ingénieur à Canadair et qui est habitué dans les laboratoires. Alors, rapidement, il a fait une grille pour inscrire ça. Puis ils ont commencé à regarder sérieusement. Et ils ont testé ça sur eux-mêmes et puis ça a été très efficace. Ils l'ont partagé avec des amis, puis après ils l'ont partagé avec leur groupe. Et puis c'est allé jusqu'au point aussi que le jeune prêtre qui était dans leur paroisse, quand il voyait des gens qui avaient des difficultés, les envoyait rencontrer le couple Brou. Alors, ils ont commencé à donner de l'enseignement dans leur cuisine. Ils se sont fait des outils maison. Mm-hmm. Et puis, par contre, ils n'ont pas négligé non plus de répondre à l'intérêt public, parce qu'ils ont donné beaucoup de conférences, d'entrevues, d'interviews et dans les années 62-63, c'était un sujet qui était très populaire. Alors, en 1963, quand ils ont eu tellement de demandes qu'ils ne réussissaient pas à le faire, ni avec les petits groupes de couple, ils ont collaboré à la rédaction du livre du docteur et Madame Baillargeon, La régulation de naissance, qui s'est vendu au Québec à 65 000 exemplaires à ce moment-là. Je crois que c'est un très grand succès libraire.
Ben oui, c'est ça, oui, tout à fait. À l'époque, il est réellement considéré comme un très grand succès en librairie. Là.
Ah oui, très, très grand. Et puis là, ben, les gens quand même voulaient un peu plus d'appui pour comprendre qu'est-ce qu'il en était. Mm-hmm. Alors, il y a eu des moniteurs de formés un peu partout. Au Québec, un peu en Ontario francophone et au Nouveau-Brunswick francophone.
OK. Ben là, vous venez de nous donner vraiment beaucoup d'informations là, très pertinentes là, sur les débuts de Serena, mais j'aimerais juste peut-être revenir là, au départ. Là, vous parliez là, bon, que les Brou le faisaient partie du service d'orientation des foyers, donc qui est un regroupement à l'époque catholique. Et donc, c'est un prêtre qui va leur proposer finalement d'enseigner la méthode à d'autres couples. Donc ça, c'est un élément assez intéressant puis qui est peut-être insoupçonné par beaucoup d'individus quand on pense qu'à l'époque, bon, années 50-60, le clergé condamnait le recours aux méthodes de régulation des naissances. Donc, c'est quand même surprenant de voir qu'il y avait certains membres du clergé qui étaient au contraire en accord, dans une certaine mesure, avec ces pratiques-là.
Bon, il était plus qu'en accord. En fin de compte. Et puis, je vais vous dire bien franchement que moi, là, j'ai jamais frappé de résistance de la part du clergé.
OK.
Je crois qu'à ce moment-là, on était assez avancé et aussi que la majorité des membres du clergé comprenaient qu'on pouvait se servir de notre intelligence et de notre volonté pour la régulation de naissance comme pour le reste.
Oui. Il y avait eu toutefois, puis on s'en était déjà parlé avant l'émission, bon, Il y avait toutefois la volonté des bros de rester discrets, malgré tout, de pas trop faire de bruit avec ce qu'ils faisaient.
Non, ce n'est pas la volonté des bros, ça. C'était le conseil que Mgr Paul-Émile Léger leur a donné.
OK.
Ils se sont présentés pour le mettre au courant de ce qui se faisait. Et le cardinal avait comme position que c'était un domaine trop difficile et qui demandait trop d'énergie pour que ce soit un couple qui avec quatre enfants qui mène la charge. Ouais. Alors, et à ce moment-là, à peu près toutes les institutions étaient dirigées par le clergé. Ouais. Alors, il a suggéré qu'on s'affilie avec les institutions de services sociaux qui étaient à Montréal.
Mm-hmm.
Bon, pas parce qu'on ne voulait pas faire ça, mais on a voulu considérer garder notre autonomie et la possibilité de nos choix, et on considérait que ce n'était pas un problème de d'autres que du couple, et que le couple était capable de solutionner si on lui en donnait les moyens. Alors, on n'a pas voulu que ce soit institutionnalisé, ni dans les hôpitaux, ni dans les services sociaux. Où on aurait été d'ailleurs les derniers intervenants crédibles. C'est nous autres qui auraient servi le café puis répondu au téléphone.
Oui, je comprends.
Alors, ça, c'était pas. C'était vraiment pas dans la vocation qu'ils voyaient faire.
Donc, c'est ça, vous vouliez vraiment préserver bon caractère, comme vous l'avez dit, indépendant, mais aussi communautaire de l'organisme. Puis bon, tu s'inscrivais au fond dans la continuité de la démarche première des bros, dans le sens où c'était pas des spécialistes de la santé, c'était pas des médecins qui ont développé cette méthode-là. Au contraire, ça s'est fait de manière autonome par un couple.
Ouais, c'est ça. Mais c'est que les gens ordinaires sont capables d'absorber ces connaissances-là puis de les appliquer. C'est une question d'intérêt et de volonté.
Ouais. Ah, puis ça, c'est assez. Ça contraste énormément avec le discours des médecins à l'époque, au contraire, qui sont aussi essentiellement des hommes et qui ne mettent pas beaucoup l'accent, au contraire, sur l'autonomie des patients et des patientes, si on veut.
Je peux vous dire qu'on considérait que les médecins étaient presque pires que le clergé. Et je crois qu'ils appartenaient à la même classe sociale des professionnels qui disent nous autres on sait, vous autres vous savez rien.
Ouais.
Ça fait que nous autres on s'est dit écoute, on verra bien si on n'est pas capable d'apprendre.
Oui. C'est vrai, c'est vraiment très intéressant. Bon, donc, on disait là, au fond, donc, l'Église catholique n'a pas été foncièrement opposée là, à la méthode Saint-Domingue pour le travail des bros. Mais toutefois, je voulais vous demander, faut quand même préciser à l'époque, sur le plan légal, le Code criminel canadien là, interdisait toujours à l'époque, là, fin des années 50, début des années 60, le recours aux méthodes contraceptives. Est-ce que Serena a eu des ennuis sur le plan légal?
Absolument pas. Puis on était un peu au courant, mais pas tant que ça. Et puis de toute façon, si on avait été pris de fond, je crois que donner de l'information sur la physiologie, donner de l'information sur les différentes observations du corps humain, on n'aurait pas été traîné en cours pour ça.
Oui, non, c'est sûr, parce qu'à la fois,
on n'était pas dans l'intervention, on remettait complètement au couple ses décisions personnelles.
Oui.
Et puis, c'est ça, on n'en a pas fait tout un plat non plus, puis ça n'a rien changé lorsqu'ils ont changé la loi.
Oui.
Absolument rien. Et puis aussi, cette loi-là a été changée quelques jours après le bill omnibus, parce que c'était un bill différent, c'était un projet de loi différent.
Mm-hmm.
Et puis, le projet de loi pour le changement sur la régulation de naissance a été discuté longuement Et puis, il y a eu presque rien sur la discussion sur le bill omnibus parce qu'on a rentré ça avec tout le reste et puis on l'a passé en douce.
Ah non, puis il faut préciser aussi qu'il y avait eu... c'était une loi qui était rendue un petit peu plutôt vieille, si on veut, puis qui était très partiellement appliquée aussi. Là, je pense même que ça a nuit à certaines organisations, aux médecins peut-être. Bon, je veux dire, il y avait eu plusieurs précédents sur le plan légal où des personnes avaient contrevenu à cette loi-là. Mais bon, c'est autre chose.
Oui, 1960, quand même, là, on sortait de tout ça. Là. Ouais. Les écoles devenaient de plus en plus laïques, les hôpitaux aussi. Le directeur de Centraide, qui s'appelait probablement autrement à ce moment-là, est passé aussi au laïcat. Et on pédalait pas par en arrière. Là,
mais ça c'est intéressant. Puis en tout cas, là, ça fait quelques trucs qu'on dit sur l'Église. Mais bon, faut préciser quand même que Serena et les membres de Serena accordaient beaucoup d'importance à la morale catholique. Et il y avait l'idée aussi de proposer aux couples une méthode de régulation des naissances qui est en accord avec la morale catholique.
Absolument. Et puis aujourd'hui, ils vont dire, bien, c'est en accord avec l'écologie, c'est en accord avec essayer de manger plus sain et puis pas d'avaler toutes sortes d'hormones. Il y en a pour un peu tout le monde là-dedans, des différentes motivations. Moi, j'ai des petites filles et puis... c'est certain que ça ne sera pas leur premier choix, mais quand elles vont accumuler les infections vaginales, quand elles vont prendre du poids, quand elles vont s'arracher les cheveux, des changements hormonaux, on va en reparler.
Ben oui.
C'est grand-maman, petite fille.
Ben oui, ça c'est tout l'avantage, on pourra en reparler au cours de l'émission, là, mais c'est tout l'avantage évidemment des méthodes naturelles de contraception et de gestion de la fécondité comme la méthode symptothermique, hein, c'est qu'on évite de nombreux effets secondaires qui sont vécus par les femmes en utilisant des méthodes contraceptives hormonales.
Oui, et vous avez mentionné en début d'émission que vous regrettiez que ça ne s'adresse pas aux hommes. Bien, au contraire, nous autres, on s'adresse aux hommes. On s'adresse aux hommes parce qu'on dit veuillez collaborer dans cette question d'une fécondité qui est là seulement si c'est en couple. T'es pas fécond tout seul. Alors c'est intrinsèque à la question, ça.
Ben oui, puis ça, c'est un autre élément assez intéressant chez Serena. Puis justement, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots un peu sur la philosophie de l'organisme, dès les années 60-70, où justement, on met beaucoup l'accent sur le couple puis sur le partage des responsabilités contraceptives.
Oui, absolument. Disons qu'on ne recevait que le couple, et c'était un couple qui donnait l'information. Ensuite de ça, on a choisi la question de la régulation de naissance, puis on a laissé de côté la sexualité, on a laissé de côté le travail avec les jeunes. On a pris à peu près une quinzaine de choix comme ça pour l'organisme et au tout début. Et il y en a plusieurs qui tiennent encore.
C'est vraiment très intéressant, Madame Doyle. Peut-être pour conclure ce premier bloc-là, là, pour recontextualiser là, tous nos propos, fin des années 60, il y a vraiment une diversification aussi des méthodes contraceptives qui sont prescrites aux femmes. Il y a évidemment la fameuse pilule contraceptive là, qui commence à être commercialisée là, au début, en 61 au Québec, au Canada, et qui gagne vraiment largement en popularité là, à la fin des années 60. Est-ce qu'à ce moment-là, la méthode symptothermique, elle perd de sa popularité au Québec?
Non, parce que c'est pas allé aussi vite que vous pensez. Okay. Non, à la fin des années 60, c'était encore jeune, là. Maintenant, les premières pilules étaient tellement fortes que ouais. les femmes avaient des accidents cérébrovasculaires. Ensuite de ça, moi je disais, elles sont de véritables zombies. Non, mais c'était vraiment important.
Ouais.
Et celle qui choisissait ça, ben moi, je pense qu'elle le payait cher. Mm-hmm. Et si elle considérait qu'elle n'avait que ce choix-là, personnellement, j'ai trouvé assez mal prise. Ouais. Maintenant, ça a été extrêmement populaire, mais aussi, c'est une approche qui est très lucrative pour les compagnies pharmaceutiques. Avoir la moitié du monde susceptible de prendre ton médicament, mm-hmm. c'est bien meilleur que juste les diabétiques ou les gens qui ont une maladie en particulier.
Oui.
Là, ça touche tout le monde, mais c'est beau mais ça fait rien qu'un bout. Les gens utilisent la pilule pour un bout et puis après ça, ils cherchent autre chose.
Mm-hmm.
Et ouais, aussi si vous l'avez bien remarqué, il n'y a pas tellement de nouvelles méthodes sur le marché, même en 2020,
mm-hmm.
En comparaison de ce qu'il y avait. Nous, on a écrit, on a fait une brochure en 1972, et puis ça reste les mêmes méthodes, ils sont rien qu'un petit peu plus perfectionnés, si on veut. Ouais.
Oui, c'est ça, mais c'est pas... Bon, c'est du nouveau design, mais il n'y a pas...
C'est le même
mode d'action, là, si on parle de l'anneau, du timbre, peu importe.
Normalement, là, avec ce que la société a fait comme avancée, on est très stagnant concernant la régulation de naissance.
Oui.
La contraception, on est très stagnant.
Oui. Ben oui, surtout, entre autres, sur le plan aussi, évidemment, de la contraception masculine. Hein, ça, je pense qu'il y a eu étonnamment beaucoup de recherches qui ont été faites de ce côté-là, mais bon...
Ils ont annoncé, si on regarde dans les journaux, là, ils nous ont annoncé des possibilités ou des progrès à venir depuis 1970, puis rien n'est
arrivé.
Ça fait que là, je pense que la collaboration masculine est encore une très bonne avenue.
Mm-hmm. Ah oui, tout à fait. Non, c'est un enjeu qui demeure là, extrêmement important aujourd'hui. On va s'arrêter déjà. C'est déjà l'heure de la pause de la publicité. Donc, restez à l'écoute puisque la discussion se poursuit avec notre invité au retour de la pause.
La femme qui possède tout en elle, pour donner le goût des fêtes charnelles. La femme qui suscite en nous tant de passions brutales. La femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades. Les crimes, les folies que pour ses beaux yeux l'on commet, la transporte, mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses, les pauvres bougres convaincus du contraire.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes de retour à 3100 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz. On s'entretient ce soir là, avec Marie-Paul Doyle au sujet de l'histoire de Cérémin et de la méthode symptothermique. On vient tout juste d'écouter, là, avant la publicité, la chanson de Brassens, 95%, qui met bien en évidence comment le plaisir féminin a été pendant très longtemps négligé au sein de la sexualité. Et bon, je voulais rebondir là-dessus, Madame Dunn, là, vous posez la question, est-ce que c'était un souci de Serena dans les années 60-70 de valoriser le plaisir féminin ou, si on veut, l'épanouissement sexuel des femmes à travers son enseignement de la méthode symptothermique?
Bien, écoutez, on a pris comme façon de faire d'être bien global. Ça veut dire de voir est-ce que le couple atteint son meilleure possibilité de fonctionnement et puis de valoriser l'amour et de... ça ne veut pas dire que la sexualité n'est pas là, mais la sensualité aussi était quelque chose qu'on cherchait vraiment à développer. Mm-hmm. Les connaissances que la femme acquiert sont aussi importantes pour son épanouissement sexuel.
Ouais.
La collaboration de son époux... et quelque chose. Moi, je disais des fois, quand on avait des cours de préparation au mariage, mais si on a une tempête et puis que la fenêtre est ouverte et que mon mari sort du lit pour aller fermer la fenêtre, quand il revient, j'ai beaucoup d'amour pour lui. et la même chose là, quand il va chercher le bébé pour que je l'alerte dans le lit.
Ouais.
Ça me fait faire des petites bouffées de désir.
Ouais.
Et c'est un peu comme ça. Nous aussi, on voyait à ce que les gens apprennent à utiliser leur sensualité. On faisait des exercices. C'est sûr de communication, mais aussi de sentir. En tout cas, je m'en souviens d'une avec des oranges. Un autre, c'était un massage. Un autre. Alors, on voyait périodiquement à faire ça et puis aussi à faire réfléchir les gens sur qu'est-ce que c'est qui les comblait et les changeait. Parce qu'il faut quand même le dire. Si on veut que l'autre le sache, tu peux grogner un petit peu, mais si tu le dis.
Ça donne pas beaucoup d'informations, là.
Si tu le dis, ça aide.
Bon, ben, c'est intéressant, c'était une petite digression, mais là, revenons.
C'est peut-être pas bien scientifique, là, mon dernier mot.
Mais non, mais c'est intéressant. Mais revenons à. À Serena, évidemment. Donc, c'est ça. On le disait plutôt année, bon, surtout à partir du début des années 60, que l'organisme gagne en visibilité. Donc, milieu des années 60 également, là, il y a d'autres associations qui vont voir le jour au Québec, là, qui vont également diffuser de l'information en matière de planification des naissances. Et là, plus encore, il y a un moment très important. En 67, là, le gouvernement du Québec a été quand même très longtemps frileux, comme beaucoup d'autres gouvernements là, en Occident à l'époque, à intervenir publiquement sur la question de la planification familiale, va en venir là, à fournir des subventions à plusieurs organismes, incluant Serena. Donc, on peut imaginer que cette première subvention, là, Mme Doyle, a vraiment aidé beaucoup l'organisme.
Oui, mais elle nous a obligés à réfléchir aussi. Parce que nous, on a demandé cette première subvention-là en préparant un texte, et puis on l'a envoyé par la poste avec un thème de Saint-Saëns.
OK.
On n'a pas appelé personne, on n'a pas fait de pression politique, rien. Et puis, il nous est revenu un chèque de 5 800 par la poste.
OK, ouais.
Alors là, on a regardé ça et on a dit, écoute, ça, c'est trop peu pour s'organiser, avoir un bureau et tout ça, mais c'est beaucoup trop pour rester comme on est. Fait qu'on a vraiment une responsabilité là, de faire des choix. Et le choix qui a été fait, c'est mon mari et moi, on laisse la présidence et que je prenne la direction générale pour monter une organisation. Et cette partie d'organisation-là, c'était vraiment notre préoccupation et notre grand désir Serena, pour moi, Serena, avait trop de potentiel pour rester petit. Alors, moi, c'était ma vocation là, de faire progresser.
Ben oui, puis ça va mener justement à l'incorporation de Serena en 69. Puis parallèlement aussi, là, une première phase d'expansion, donc vous parliez déjà, là, il y avait déjà une présence de Serena, bon, entre autres en Ontario français, mais bon, ça va se poursuivre dans les années 70, bon, au Nouveau-Brunswick, dans le reste du Canada. Comment ça se passe, cette expansion dans le reste du Canada? Est-ce que c'était des demandes qui vous étaient exprimées ou c'est vous qui avez vraiment décidé où on va aller sur le terrain?
C'est le conseil d'administration de Serena Québec qui a consenti à aller porter le message ailleurs aussi, si on avait les fonds pour le faire. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, en 1970, entre autres, j'ai dit à mon mari, « Bon, on va demander des fonds fédéraux. » Il m'a dit, « Fais bien attention, parce que si on en demande, on risque d'en avoir. » Fait que tu peux pas faire ça sans appeler ton président.
Oui.
Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé le président. Il m'a dit, on peut toujours faire ça parce qu'on a un bon message. Mais le problème était que nous autres, on n'avait que deux ou trois personnes qui parlaient suffisamment l'anglais pour... aller porter ça dans les provinces anglophones.
Ouais.
Mais on a pris la chance pareil. On a reçu une première subvention de 25 000 $ pour aller faire un test dans les provinces de l'Ouest, Saskatchewan, Alberta et Manitoba. Mm-hmm. Et après ça, a eu lieu la conférence nationale sur le planning familial et on a reçu une autre subvention de 40 000 et là, les fonctionnaires nous ont dit préparer une subvention de soutien et là, j'ai préparé quelque chose qui avait comme prix final 212 000 $574.
Ouais, ça commence à faire pas mal de sous, là.
Et là, les fonctionnaires ont dit, ben c'est bien trop. Ben j'ai dit, je suis capable de vous donner exactement ce qu'on est pour faire avec ça, mais en tout cas, on a baissé un petit peu, 172 000, et puis on a eu ce type de subvention-là pour une vingtaine d'années.
Mm-hmm. Oui, puis ça, ben, c'est intéressant ce moment-là de l'histoire de Serena, parce qu'à la fois, bon... Il me semble, si j'ai bien compris, si j'ai bien fait mes devoirs, il me semble que cette subvention, bon, vous avez eu à plaider votre cause, si on veut, auprès du fédéral, dans la mesure où, bon, il y avait d'autres organisations qui étaient présentes à l'échelle du pays et qui faisaient déjà ce travail-là, qui avaient du financement. Puis bon, entre autres, ben, vous avez amené, il y avait toute une dimension linguistique, si on veut, là, à cette demande de subvention, là.
Oui, bien, disons que le fédéral n'a pas vu venir du tout notre demande, une demande d'appui financier. Mm-hmm. Parce que les fonctionnaires là-bas, de même que beaucoup du gouvernement, ne savent pas ce qui se passe du côté francophone.
Ouais.
Et à ce moment-là, Nous autres, on avait déjà une organisation, le côté Fédération pour le planning des naissances, c'était une très petite organisation, mais ils ont voulu mettre de l'argent pour la faire grossir un peu.
Ouais.
Et lorsqu'ils ont annoncé le programme fédéral, ils n'ont jamais pensé qu'il y avait d'autres choses que la Fédération pour la planification familiale. Mmh. Mais on était assez vigoureux à ce moment-là qu'on a réagi immédiatement à l'annonce de la subvention. Et j'ai organisé une conférence de presse que j'étais assez chanceuse pour avoir vraiment des représentants des pages féminines.
Mmh.
Et on a convaincu que la Fédération francophone pouvait ou devait avoir l'argent nécessaire pour son plein épanouissement.
Mm-hmm.
Et ça a été au niveau fédéral une grande surprise et ça a pris pas grand temps pour, avec des pressions auprès des députés de la part de nos moniteurs.
Ouais.
Et aussi beaucoup d'interprétations, parce qu'on est allé voir les fonctionnaires, on est allé voir les ministres.
Ouais.
Et puis là, on a pu entrer sur le programme à long terme.
Oui. Puis est-ce que vous diriez que même à l'époque, c'est-à-dire que c'est une forme que ça représente un peu un certain engagement politique de Serena, dans la mesure, bon, on est dans les années 70, évidemment, là, c'est la montée du nationalisme québécois, déjà depuis quelques années, de plaider, c'est ça, ainsi en la faveur d'un organisme québécois, aussi en la faveur de production de matériel éducatif, tu sais, sur le plan de la production de naissance en français.
Oui, mais ça a duré à peu près, je dirais, 2 mois.
OK.
Cette COP-là. Après ça, ce n'était pas ce qu'on regardait du côté fédéral. Ils voulaient savoir d'abord si on s'implantait là-bas, comment c'était reçu. Et là, les ministres ont commencé à dire, bien, c'est certain que Serena a droit à de l'argent parce que cette population-là au Québec, c'est quand même 20%. Ou 25 à ce moment-là. Et puis, il y a des gens aussi qui, pour des questions religieuses, ne veulent pas de contraception. Alors, ils ont diversifié les raisons de nous donner subvention. Mm-hmm. Et comme on a été très actifs, très présents, et qu'on a, à cause du couple, la couple, c'est facile d'avoir des services dans n'importe quelle petite municipalité.
Mm-hmm.
À partir, il y a eu un temps où on avait des services dans 150 villes, villages ou à travers le pays. Alors, c'est très léger, hein, notre travail. Tu formes un bon couple qui, à un moment donné, trouve quelques autres autour de lui, et puis mm-hmm. là, t'as un service qui ne coûte rien.
Ouais.
Et les gens travaillent bénévolement, ils n'ont pas de locaux, et puis ils sont là pour leurs voisins. Mm-hmm. Alors, c'est des connaissances de milieu.
Ouais.
Donc, à Calgary, tu fais une clinique, et puis tu es ouvert trois soirs semaine entre 6h30 et 8h30. Mais, tu sais, les gens qui demeurent loin, là, ils peuvent pas venir.
Ben oui, tout à fait. Puis, il faut...
C'est très limité.
Tout à fait.
Puis après ça aussi, le téléphone, ça, c'est on est accessible 24 heures sur 24.
Ouais.
On est accessible pendant la fin de semaine. On est accessible tout le temps.
Oui.
Tout le temps.
Non, c'est ça. Puis il faut préciser que toujours dans les années 70, bon, t'as le Québec et l'Ontario qui avaient davantage de cliniques de planification des naissances qui commençaient à se développer, mais dans le reste du pays, ça demeurait toujours très marginal quand même. Donc, j'imagine que Serena est venue répondre à des besoins importants.
Je pense que l'Ontario est plus avancé qu'il l'était à ce moment-là. Non, parce que eux autres ont décidé de mettre leur argent mais quand même pas avant 75, ouais. dans leurs unités sanitaires.
OK.
Et c'est là que l'argent avait été distribué. Et il n'y avait pas de clinique. Oh mon Dieu, peut-être à Guelph ou Kitchener, quelque mm-hmm. chose comme ça.
Ouais.
Avec surtout l'usine de condoms. Là,
oui.
Bon, mais s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu d'histoire.
Oui.
Parce que c'était pas encore là.
Je comprends.
Et quand le fédéral a donné l'argent à travers la Fédération pour l'année des naissances, eux se sont diversifiés en passant justement par des cliniques médicales parce que le peu de contraception qui se faisait dans ces années-là se passait toujours par les médecins.
Mm-hmm. Ouais.
Alors, des cliniques qui expliquent les choses, là, il n'y en avait pas.
Mm-hmm. Ah, je comprends. Donc, c'est ça. Donc, Cernel connaît donc une expansion à l'extérieur du Québec, là, à travers le Canada, là, au cours des années 70. Ça se passe toujours aujourd'hui, évidemment, et que Serena Canada existe toujours aujourd'hui. Puis il y a même une expansion là, de Serena à l'échelle internationale. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des grands jalons de cette expansion, hein, Madame Deux?
Sûrement. sûrement. Alors, Serena, en fait, est à la base de la fondation de la FIDAF, la Fédération internationale d'action familiale. Mm-hmm. Parce que son initiateur est le docteur Claude Langteau, qui était à l'Université de Sherbrooke à ce moment-là, mais ayant pris une formation en démographie et puis en santé maternelle et infantile aux États-Unis, et s'intéressant à Serena depuis au commencement de Serena en 58-59, lorsqu'il était étudiant en médecine. À ce moment-là, on est devenu un peu les initiateurs de ça, mais ce n'est pas la formation de Serena. La Fédération internationale voulait la contrepartie de International Planned Parenthood pour être un initiateur dans les pays en voie de développement de la mise en fonction de services et de l'obtention de subventions et évidemment des contacts avec les organismes de recherche comme l'Organisation mondiale de la santé et aussi avec le gouvernement américain, avec le USAID, qui est leur section semblable à celle que nous, on a avec l'ADDI. Alors, Serena a aidé à obtenir des subventions de projets pour les pays en voie de développement à travers la Fédération internationale d'action familiale et les fonds provenant de l'ADDI. Alors, la Fédération a existé pour une vingtaine d'années. Et après ça, bien encore, le financement est toujours crucial. Et au gouvernement des États-Unis, on est passé à autre chose. À ce moment-là, nous, on n'était pas capable de survivre dans cette condition-là.
Oui. Ben oui, parce que ça, c'est un élément intéressant qui est assez méconnu en général aussi, avec les. Le développement des moyens contraceptifs jugés modernes, pilules stériles, tout ça, là, c'est fait vraiment beaucoup dans le contexte de l'intervention des États-Unis, de d'autres pays occidentaux dans les pays du tiers-monde, si on veut, pour enrayer la surpopulation mondiale. Donc, c'est ça, on va fournir. Bon, évidemment, il y aura beaucoup de dérives à l'époque, hein, entre autres avec des campagnes de stérilisation du côté de l'Inde ou ailleurs aussi du côté de l'Amérique, tout ça. Donc, je trouve ça intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait cette contrepartie où on propose plutôt des méthodes naturelles dans les pays du tiers-monde, justement.
Oui, notre premier projet a été à Cali, c'est en Colombie. Et puis, ça a été des premiers projets qu'on a aidés. Et lorsqu'on était dans les bureaux de l'ACDI pour finaliser le projet, l'agent a eu un téléphone un peu comme je viens d'avoir là, qui lui a dit pourquoi vous êtes prêt à mettre 72 000 $ dans ce projet-là, alors que nous autres, on va dépenser 7 millions l'année prochaine en Colombie. Ouais. Mmh. Alors, vous comprenez quoi, ça, c'était pas force égale, pas du tout. On a quand même eu le projet, il s'est très bien déroulé. Il était dans quatre secteurs de la ville. Et puis, lorsqu'il a été fini, il a été multiplié pour les 20 secteurs. Et puis, après ça, avec Miséréor, il a eu de l'extension. À travers la Colombie au complet. Alors, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas capable de rien faire, là, mais quand il y a plus d'argent, c'est sûr qu'il y a certainement plus de visibilité.
Ah, ben oui, ça c'est évident, mais ça n'empêche pas également qu'il y a eu beaucoup de chercheurs et chercheuses qui ont contribué, bon, dès les années 60. On parlait de Jacques Baillargeon, Claude Langteau aussi, là, vous avez mentionné plus tôt. Mais aussi également au cours des années 70, là, il y a beaucoup de chercheurs qui vont faire de la recherche sur la méthode synthothermique et qui vont réellement là, asseoir la légitimité là, scientifique de cette méthode de gestion de l'infertilité. Donc, il y a d'autres recherches importantes qui se déroulent durant les années 70. Là.
Bon, 80 surtout.
Ah, 80, oui.
80 surtout, mais c'est grâce à l'agence américaine et oui. l'OMS. Et bon, l'intérêt a duré une dizaine d'années, puis là aussi, ils sont passés à autre chose. Mais quand même, cela a assis la crédibilité des méthodes naturelles.
Ben oui, parce que ça, il me semble que vous avez eu, entre autres, il y a eu des relations là, avec un institut de recherche qui se trouve, entre autres, à Georgetown.
Oui. Ça, ce sont les recherches sur l'allaitement.
Oui.
Et le retour de la fertilité, parce que au moment de l'allaitement, beaucoup de jeunes mères se demandent est-ce que je vais devenir enceinte? Et puis, c'était important pour ces agences-là, pour le monde entier, parce que l'allaitement dans les pays en voie de développement, c'est la sécurité de la santé des enfants. C'est bien mieux que de l'eau sale avec une petite poudre qu'on brasse et puis on donne enfin. Alors, ils ont pu développer le consensus de Bellagio sur les conditions que ça prend pour que l'allaitement soit un moyen de régulation de naissance pendant les 6 premiers mois de la vie.
Qui constitue en fait une très vieille méthode contraceptive.
Oui, mais on voulait en savoir c'est quoi les limites.
Ouais.
À ce moment-là, on a offert notre collaboration. Il y a eu de la recherche de notre part aussi sur les changements au col de l'utérus.
Ouais.
Et puis, on a appris aux femmes à mesurer la hauteur et puis la fermeté du col, entre autres choses. De cette façon-là, on a pu apporter beaucoup d'aide dans les périodes difficiles de préménopause et de allaitement.
Le temps file, Mme Doyle. Donc, peut-être une dernière question plus actuelle, si on veut, là, par rapport à la méthode synthothermique. Là. Bon, on en parlait un petit peu plus tôt là, de tous les effets secondaires là, liés à la contraception hormonale, puis, tu sais, c'est-à-dire être exprimé là, de plus en plus par les femmes actuellement. Là. Donc, il me semble qu'il y a de plus en plus de critiques par rapport à la pilule, par rapport aux stérilets, tout ça. Est-ce que vous croyez que la méthode symptothermique, elle connaît un regain de popularité dans les dernières années?
Non.
Non.
Non. C'est pas la solution de facilité.
Ouais.
C'est une solution logique, c'est une solution coopérative, c'est une solution aux effets secondaires bénéfiques, mais c'est pas tout le monde qui veut ça.
Ouais.
Et puis, et c'est pas le médecin non plus qui va prendre une heure ou deux pour donner l'explication. Par contre, il y a plus de connaissances écrites là, comme le docteur Parenteau, qui oui. est dans l'organisation, vient de sortir un livre sur la fécondité, le contrôle de la fécondité.
Oui.
Un très, très, très beau livre. Et ça, bien, c'est disponible dans les librairies. C'est ouais. disponible aussi en ligne, là.
Oui, c'est ça, une version numérique, si on veut, du livre.
Une version numérique, bon, ouais. c'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est disponible. Et puis aussi, bien, quand même, il y a des organismes dans plusieurs pays, dans les pays francophones, je sais, en Belgique, en France, en Suisse. Il y a des organismes pour faire ça. Alors, le fait qu'on a l'Internet, ça donne une meilleure connaissance, mais les gens ne sont pas nécessairement persévérants. Ils frappent un petit nœud, là, et c'est à ça que servait l'éco-pointeur. Justement, à prendre l'appel, puis dire, bien, place ta feuille là, puis tu vas voir que tu vas voir quelque chose.
Oui, pour assurer de faire le suivi avec les couples.
C'est ça. Ça prend du suivi. Et un peu de persévérance, puis surtout beaucoup de collaboration du conjoint. Tu sais, c'est pas « va mettre ton affaire, puis ça va être réglé ».
Là,
c'est « on juge ensemble ». Moi, je dis à mon mari, je suis prête à avoir autant d'enfants que toi, tu es prête à en garder quand moi, je vais être partie en voyage d'affaires.
Ben oui, mais ça, c'est un élément extrêmement, extrêmement important. Je pense qu'il faut, insister à nouveau là, sur cet élément de Serena puis de la méthode symptothermique, hein, puis qui est tellement étrangère puis peu commune à pas mal aux autres méthodes contraceptives. C'est l'idée justement du partage des responsabilités contraceptives.
Certain, certainement. J'aurais crevé les yeux de mon époux s'il n'avait pas voulu partager la question avec moi.
J'en doute pas. C'est déjà tout pour ce soir. Ça a passé extrêmement vite. Merci beaucoup, Mme Dunn. C'était bien plaisant. On a eu une belle conversation. Je vous remercie pour votre participation, pour votre générosité là, avec tout ce que vous nous avez raconté. Pour ceux et celles là, qui seraient intéressés à poursuivre leur apprentissage sur Serena, sur l'histoire de Serena, ben, je vous recommande évidemment, il y a l'ouvrage de l'anthropologue et historienne de Diane Gervais, intitulé « Le Serena, la fécondité apprivoisée », également pour les femmes et les couples là, qui seraient intéressés à en apprendre davantage sur la méthode, ben, vous pouvez, entre autres, consulter le site web de Serena, vous aurez beaucoup d'informations. Il y a l'ouvrage dont on a parlé aussi de la docteure Suzanne Parenteau. Et on se laisse en musique avec la pièce « Jean Talon » de Calamine. On se retrouve pour une autre émission la semaine prochaine. Bonne soirée.
Le cadre, c'est une tragédie, chillin' sur le gros snooze, collé genre spaghetti, faut se lever old school. J'suis un peu cowboy, mon amour est old school. Mais quand je monte en scène, je vais pas fausse route. On travaille comme des automates, j'estarde la journée café, non les métaux sur tomate. Chaque fois, je déprime de voir qu'elle veut pas rester, mais ça prend pas 5 minutes, puis je vois qu'elle me texte. Le réveil est doux dans la petite batterie, monter la fucking côte à pic, c'est je n'ai que t'as pris. On fait l'amour comme des machines, on connaît ma mécanique. Les deux, on ne fait que, j'suis bon en mathématiques. Et personne n'est plus sharp que moi pour faire son lit. Sa chambre c'est d'autant plus sacré et puis c'est girls only. On fraîche toute la nuit puis je le kiffe comme Paris. Après pour digérer on boit un spritz comme Paris. Oh baby, baby, baby. J'fly jusqu'à Jean Talon, genre anytime. Oh baby, baby, baby. On sait que c'est ma blonde qui est le headline. C'est du sport comme à ESPN quand on est SPM. Parce qu'on est synchro, nous les lesbiennes. Mais tu me connais pas si t'as pas vu mes débordements. Je suis comme mon diva cop, puis je fuis fortement. J'ai checké son Tinder, puis j'ai aimé.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de CHIZ 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4000. 418-456-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.